Bonjour et bienvenue sur Bac FM. Aujourd'hui, votre rendez-vous quotidien, c'est dans les parages, s'intéresse aux cours d'eau et leur importance, leur préservation, avec Mathias Bourreau et Antoine Etienne. Mathias et Antoine, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Mathias, vous êtes animateur du contrat territorial. Est-ce que d'abord, vous pouvez nous expliquer un peu ce rôle?
Oui, bien sûr. Donc, c'est en binôme avec mon collègue Antoine, qui lui est technicien de rivière. Moi, mon travail, ça va être de m'assurer de l'avancée de la politique territoriale en faveur de la restauration des cours d'eau, très simplement.
D'accord. Et Antoine, technicien de rivière, donc...
Et donc, moi, je suis sur une partie plus opérationnelle. Une fois que les politiques se sont à peu près accordées sur qu'est-ce qu'on fait de nos cours d'eau et comment on les préserve, moi, je rends ça concret sur le terrain. C'est donc, ça. Comment on aménage les rivières, les milieux aquatiques pour répondre aux enjeux écologiques qu'on s'est fixés.
Ok, oui, donc très complémentaire. Donc,
exactement.
C'est le but de notre binôme.
Très bien. Et alors, vous venez à l'occasion de deux manifestations.
Tout à fait.
La première, Tintamarre, aura lieu le mercredi 9 juillet de 14h à 23h au parc Mendes France à Nevers.
Oui.
Et la deuxième, le mercredi 16 juillet à l'entrée des prés de Coulanges. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qu'est-ce qui va se passer, comment elles sont organisées?
Oula, alors c'est deux manifestations effectivement distinctes. La première, Tintamarre, pour nous c'est notre événement majeur de l'été. Donc ça s'inscrit dans le cadre du festival Les Pieds dans l'eau, donc un festival départemental qui a lieu pour la cinquième année consécutive. Et donc l'objectif de ce festival, c'est de rapprocher les habitants de leur rivière. Très simplement. Et là, Tintamarre, c'est un peu particulier cette année parce que on lance enfin, après 7 ans, les travaux sur le canal de dérivation de la Nièvre à Nevers. Donc c'est nos plus gros travaux jamais portés par le contrat territorial. Et du coup, c'est l'occasion aussi de lancer ces travaux-là, quoi. Donc c'est vraiment un enjeu majeur pour nous de pouvoir avoir cet événement et de pouvoir lancer et rencontrer la population à ce moment-là.
Ok, et justement, ces travaux, ils sont inaugurés donc le 9 juillet,
oui,
pendant la manifestation.
C'est ça.
Et alors concrètement, qu'est-ce que ça va changer, ces travaux? Ça va donc renaturaliser, c'est ça?
Oui, alors l'objet de ces travaux, en fait, c'est de travailler sur ce qu'on appelle la continuité écologique de la rivière. Donc pour faire simple, le canal de dérivation de la Nièvre à Nevers, il dérive la rivière Nièvre qui arrive en amont de Nevers pour la jeter dans la Loire en aval de Nevers. Donc c'est un cours d'eau qui a totalement été créé par l'homme pour contourner la ville de Nevers. Et à travers ce cours d'eau, il y a 4 ouvrages transversaux en béton qui ont été installés par l'homme au fur et à mesure des décennies pour répondre à des enjeux, notamment aux entreprises qui sont installées à proximité du canal au milieu du XXe siècle. Aujourd'hui, ces ouvrages en béton n'ont plus aucune fonction. En tout cas, les usines pour lesquelles ils ont été construits n'ont plus d'usage, n'ont plus d'utilisation. Donc nous, on va essayer d'effacer, enfin, c'est pas on va essayer, on va effacer et on va aménager ces ouvrages pour permettre à l'eau de s'écouler naturellement à nouveau dans ce cours d'eau et dans ce canal. Donc il y a un réel enjeu pour le fonctionnement de la rivière, pour la vie piscicole et pour l'équilibre globalement de l'écosystème.
Ok.
Et donc ça va nécessairement avoir un impact aussi sur le paysage, sur cette portion de la ville de Nevers.
Ok, donc l'impact est... enfin l'enjeu est d'abord écologique. Donc.
C'est ça. Nous, nos portes d'entrée sur tous les projets qu'on mène, c'est l'écologie, la biodiversité, l'écosystème aquatique.
Voilà.
Comment l'améliorer, le préserver ou le maintenir en bon état.
Donc, okay. Pour les auditeurs, hein, pour que ce soit plus concret, l'idée c'est aujourd'hui, le canal de dérivation c'est en gros 4 étangs successifs avec des plans d'eau stagnants. Demain ce sera un cours d'eau. Donc plus fin, avec un vrai débit, un vrai courant.
Une rivière plus dynamique, voilà. Et toute une biodiversité associée qu'on ne voit pas forcément aujourd'hui qui est censée se réinstaller post-opération.
Ok, et justement côté pollution, qu'est-ce qui aujourd'hui pollue le plus nos rivières, nos cours d'eau, ou en tout cas... C'est quoi aujourd'hui le problème avec ça?
Oui, il y en a plusieurs.
Alors déjà, nous, on parle jusqu'ici très peu de pollution avec Mathias dans notre métier. On parle plus de dégradation du milieu. Et très souvent, enfin, c'est même dans la totalité des cas, c'est comment l'homme a dégradé physiquement le milieu. À travers quelles activités, à travers quel processus répété dans le temps et dans l'espace, il a pu impacter nos rivières. Et nous, sur notre rivière, enfin sur nos rivières, parce qu'on travaille sur les rivières Nièvre, il y a un phénomène qu'on retrouve souvent, c'est la modification de la rivière. On partait historiquement, enfin naturellement, avec des rivières qui sont de forme sinueuse. Très souvent, ces rivières ont été retravaillées, recalibrées de manière toute droite pour faciliter leur écoulement, pour évacuer l'eau, drainer les parcelles et compagnie. Et donc ça, ces opérations qui ont été menées, ont eu des enjeux, on va dire, par rapport à des usages...
Existants, économiques, voilà, ça l'a fait pour des raisons économiques.
Mais sauf que par rapport au cours d'eau et à son équilibre, ça l'a totalement dégradé. au fur et à mesure des décennies qui se sont écoulées.
Voilà.
Donc nous, on se retrouve très souvent à travailler sur ce genre de problématiques de dégradation, et non pas de pollution, qui est comment l'homme a modifié physiquement la rivière et l'a déséquilibrée.
En fait, c'est tout un accumul de différentes petites pressions locales, et en fait, in fine, on arrive à dégrader l'ensemble de la masse d'eau. C'est ça notre enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à redonner une sorte de continuité à ce travail-là.
Okay.
Parce qu'il ne faut pas se leurrer, dans la Nièvre, en tout cas sur notre territoire à nous, quand on associe souvent le terme pollution à l'industrie, c'est peut-être dans le sens de votre question d'ailleurs, nous sur notre territoire, il n'y a pas d'industrie en fait. Donc l'aspect pollution, on ne le perçoit pas dans des proportions auxquelles on pourrait s'attendre quand on parle de dégradation de milieu.
Ouais, c'est plus l'artificialisation.
Exactement. C'est le terme qu'on utilise d'ailleurs.
Voilà, okay. C'est ça.
Ouais. Et ces manifestations, justement, elles sont là pour sensibiliser, pour éduquer tous les participants.
Exactement.
Et elles se tiennent en ville, justement. Oui. Et est-ce que c'est une raison, justement, de choisir ce cadre urbain ?
Alors, c'est pas forcément un choix. L'opportunité aujourd'hui de faire nos travaux à Nevers, c'était aussi l'occasion de pouvoir aller rencontrer la population de Nevers. Ce qu'on se rend compte, c'est que les Neversois sont vraiment connectés à la Loire. En tout cas, aujourd'hui, tous les Neversois connaissent la Loire, mais très peu, au final, connaissent la rivière Nièvre. Je pense qu'il y a peu d'auditeurs qui, finalement, savent où passe la rivière Nièvre à Nevers, sachent qu'elle a été buzée, elle a été enterrée et qu'elle passe sous la maison de la culture. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est quasiment inconnu, alors que pourtant, on a le cours d'eau qui a donné son nom au département, qui est enterré sur quasiment 300 mètres. Donc aujourd'hui, voilà, notre objectif au travers de ces manifestations, c'est aussi rappeler aux Neversois que la rivière Nièvre passe à Nevers et que c'est important. Elle a eu un rôle historique dans la création de la ville et ça pose aussi la question de quelle place on peut donner à cette rivière demain.
Et côté, justement, moi je pensais aux grandes chaleurs qu'il y a en ce moment et tous les changements de température parce qu'il y a aussi beaucoup de grandes averses. Mmh. Est-ce que ça a un impact sur ces cours d'eau ?
Oui, bien sûr. On a de plus en plus d'assec avec Antoine. Enfin, sur la rivière Nièvre, on a de plus en plus de cours d'eau qui sont à sec. En plus, on est un territoire un peu particulier, avec un sous-sol calcaire. Et en fait, parfois on a des pertes, parfois on a des résurgences. Et en fait, le sous-sol bouge. Et c'est un peu comme dans le Jura, pour ceux qui connaissent. C'est un sol karstique. Et donc ça, aujourd'hui, effectivement, avec les sécheresses répétées, ça a un impact qu'on ne connaît pas. Parce qu'en fait, le karst chez nous n'a pas été étudié. Donc en fait, on ne sait pas ce qu'on a dans le sous-sol. On sait juste que ça va bouger. On ne sait pas quand, on ne sait pas dans quelle proportion.
En tout cas, la réalité du territoire aujourd'hui est celle qui va être réelle dans les années à venir, au vu du dérèglement climatique. C'est qu'on aura des périodes d'assec de plus en plus longues et des périodes de pluie et d'inondation de plus en plus longues. Pour autant, il n'y aura pas forcément plus d'eau qui va tomber sur le territoire, mais elle tombera sur des périodes plus ciblées.
En gros, on peut dire inondation janvier, février, mars, et après plus d'eau jusqu'à janvier, février, mars suivant. Grosso modo, on est à peu près sur ces profils-là.
Donc nécessairement, c'est des usages et un écosystème qui en pâtit, qui devra s'adapter à ça.
Ok, et justement, pour s'adapter, un arrêté préfectoral entre en vigueur ce vendredi dans la Nièvre, avec des restrictions d'eau. Et concrètement, quel impact ça a, est-ce qu'on a des résultats, on va dire?
Ah, c'est une question qui n'est pas simple, parce qu'au final, ça dépend aussi des usages, ça dépend des gens, mais c'est peut-être plus une façon de faire prendre conscience aux gens que l'eau, c'est un bien précieux, et qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'usages où en fait, on gaspille l'eau. Et il faut aussi rappeler que l'eau, ça a un prix, ça a un coût. C'est un coût économique, c'est un coût social et environnemental, et c'est aussi important de rappeler ce coût-là aux gens, quoi.
Et l'eau, ça nous concerne tous, ça nous rassemble tous. Donc quand on parle d'eau, de rivière, enfin peu importe la manière dont on parle de l'eau, c'est un enjeu collectif. Donc ces arrêtés préfectoraux, ici souvent certaines professions ou certaines thématiques plus que d'autres, mais malgré tout il y a un enjeu collectif derrière, donc chacun doit mettre la main à la pâte, et c'est en travaillant de manière coordonnée là-dessus qu'on arrivera aussi à préserver cette ressource et à avoir des perspectives plus saines pour l'avenir.
C'est ça. Et Antoine touche un point important, c'est que c'est pas juste nous avec Antoine qui allons améliorer la qualité de l'eau ou qui allons redonner de la ressource en eau sur le territoire. C'est l'ensemble du territoire qui doit prendre conscience de la richesse de l'eau et de son importance.
C'est justement ce que j'allais demander. Pendant ces manifestations-là, bien sûr, il y aura plus de détails, mais est-ce que déjà, à l'échelle individuelle, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça ?
Ah, c'est une bonne question, ça, concrètement, ce qu'on peut faire.
Et puis nous, on ne travaille pas forcément sur des échelles individuelles, en fait.
On est plus sur à l'échelle de l'ensemble du bassin versant, en fait. Nous, notre unité de gestion, c'est la rivière de sa source à la Loire, quoi.
Embouchure, ouais.
Donc, en fait, pour nous, ce n'est pas forcément les sujets sur lesquels on travaille.
On va plus travailler globalement, par exemple, avec les agriculteurs, le monde agricole ou les gestionnaires de captage d'eau potable, ce genre d'acteurs du territoire.
Avec les propriétaires d'ouvrages, de moulins,
d'étangs et compagnie.
Ça peut être... voilà.
Donc après, oui, on peut vous sortir les phrases classiques, les bateaux, prenez des douches moins longues, ce genre de choses. Évidemment, ça a un impact. Mais nous, on est sur des perspectives un peu plus...
globales.
Ouais, exactement. Ouais.
Et c'est même, nous, notre question, finalement, la question qu'on va avoir, c'est, à terme, comment on se répartit la ressource en eau qu'on a sur notre territoire entre les différents usages et les sols qu'on a besoin, en fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, grosso modo, il y a 40% de la ressource en eau sur le territoire, enfin, sur notre bassin versant, c'est l'eau potable, 25% c'est l'évaporation des plans d'eau, et après, on a une partie agricole qui doit représenter peut-être 10-15%, et après, le reste, c'est pour le milieu. Et donc, c'est que la question, c'est comment est-ce que cette répartition, elle est bonne? Et sinon, comment on met plus d'eau, finalement, pour pas que ça nuise au cours d'eau, tout en permettant les usages économiques existants? C'est surtout cette question-là. Comment on se répartit cette ressource en eau et sous quels critères?
Ok, ouais, l'équilibre, la question de
exactement.
L'équilibre.
Exactement. Qui on favorise, pourquoi, à quels enjeux on veut répondre, est-ce qu'on a des enjeux économiques, environnementaux, sociétaux, voilà. On c'est peut, tout l'enjeu de notre travail, en fait.
On peut se dire, tant pis s'il y a plus d'eau dans les cours d'eau, tant qu'on a de l'eau potable. Ça peut être une solution. Est-ce que c'est la bonne? Pas forcément, parce que le cours d'eau joue des rôles sociaux et économiques aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est typiquement...
Et environnemental aussi.
Voilà, c'est ça. Il y a toute une biodiversité. Sans cours d'eau, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien, quoi.
L'eau touche à beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup de paramètres de notre quotidien. Donc, on ne peut pas se permettre de fermer les yeux sur une thématique plus que sur une autre, quoi. Il faut considérer l'eau dans sa globalité.
C'est ça.
Pendant ces manifestations, pendant tous ces événements, vous avez des partenaires. Entre autres, il y a la LPO, l'agglomération de Nevers, la Fédération de pêche, la Société d'histoire naturelle d'Autun, le CAUE, le Musée de la Faïence ou encore la médiathèque Jean Jaurès. En quoi est-ce que tous ces partenaires sont complémentaires sur cette question-là?
La volonté qu'on avait quand on a fait cette manifestation avec Antoine, c'est de pouvoir se dire à un moment donné... Tous les partenaires spécialistes peut-être d'un morceau ou d'une partie en lien avec le cours d'eau se rencontrent et sont là pour répondre aux questions des habitants. L'enjeu, il était là. Donc en fait, chacun va apporter, par exemple, la Fédération de pêche, ils vont apporter la partie piscicole. La Société d'histoire naturelle d'Autun, ils vont apporter des choses sur les mammifères. Il y en a qui vont apporter plus sur la qualité de l'eau, d'autres sur l'histoire. Voilà, l'idée, c'est de mettre ensemble, au même endroit, tous les partenaires qui travaillent de près ou de loin sur la rivière et que... un individu, quelqu'un qui vient poser une question sur la rivière, puisse trouver sa réponse à ce moment-là. L'objectif est là.
Okay. Et générer des discussions entre ces mêmes partenaires.
Exactement.
Et c'est le meilleur moyen de sensibiliser les gens en fait, à l'enjeu aquatique et préservation de la ressource. Il y en a qui vont plus être intéressés par l'aspect historique, qui la porte d'entrée biodiversité ne va pas les intéresser, du coup ils vont se dire bon, les rivières, on s'en fout. Mais peut-être que la porte d'entrée historique va permettre de les sensibiliser à l'enjeu écologique derrière. Donc il faut essayer aussi pour nous d'avoir le plus de panels de portes d'entrée possibles pour le grand public et pour arriver in fine à l'enjeu global qui est on sensibilise le public.
C'est ça.
Et l'une de ces portes d'entrée, ça peut aussi être l'art. À la fin de la première manifestation, il y aura deux projections immersives et Pogno sur la falaise.
Exactement.
Pourquoi avoir choisi ces œuvres et en quoi elles permettent de sensibiliser à la question?
L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit aussi grand public pour pas effrayer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit une manifestation tintamarre sur l'eau. On peut se poser la question aussi, ça fait un peu peur, ça va être que des professionnels, ça peut être étonnant. Non, aussi, le but, c'est d'être grand public, de pouvoir susciter l'intérêt des gens et de se dire, c'est aussi pour passer un bon moment. Et après, au travers du moment agréable que les gens vont passer, peut-être qu'ils vont arriver à s'interroger sur qu'est-ce que c'est un cours d'eau. Et dans ces cas-là, il y aura aussi les collègues qui pourront répondre à ces différentes questions.
Et on cherche aussi à se détacher un peu du cliché de manifestation écolo. Ils vont un peu nous rabâcher les mêmes sauces, phrases bateau, justement, comme je disais tout à l'heure. Et donc, c'est aussi une autre porte d'entrée pour essayer d'alpaguer les gens autrement.
Une autre méthode.
Voilà, c'est ça. Et de montrer qu'en fait, on peut sensibiliser à l'environnement sans être l'écolo cliché relou.
Justement, ces manifestations, elles sont dans le cadre du mois de pieds dans l'eau.
C'est ça.
Les pieds dans l'eau. Est-ce qu'il y a d'autres événements à venir aussi dans le cadre de ce mois?
Oui, il y a plusieurs. Pas forcément chez nous, mais chez nos collègues, que ce soit du côté de Caunes ou du côté
du Morvan.
Du Morvan. Voilà, il y a plusieurs animations. Alors, j'ai plus le programme en tête, mais il y a plusieurs choses qui se sont faites, qui vont se faire effectivement. Des expositions, il y a des conférences. Voilà, il y a pas mal de choses qui vont avoir lieu.
Ok. Et toutes les informations, on peut les retrouver
sur Facebook.
Sur Facebook.
Voilà. Voilà. Les pieds dans l'eau. Les pieds dans l'eau 58, je crois.
Ça marche.
Et donc voilà. Le programme est disponible.
C'est noté. Eh ben, merci beaucoup d'être venu à BAC FM pour parler de tout ça.
Merci beaucoup.
Merci pour l'accueil.
Je rappelle tout de même qu'il y a deux manifestations.
Tout à fait.
La première, Tintamarre. D'ailleurs, pourquoi ce nom, Tintamarre?
L'idée au départ, c'était de faire du bruit, de montrer qu'on pouvait faire quelque chose de festif avec le cours d'eau. Voilà. Donc okay. Au départ, voilà, on avait une partie. Le premier tintamarre a maintenant 5 ans, je pense. Et donc, on avait fait participer un artiste qui avait fait du tambour en bois. Un tambour de bois, voilà, l'idée, c'était de faire du bruit dans la forêt aussi. Donc, voilà, le nom est resté.
Ok, et bah pour faire du bruit, rendez-vous le mercredi 9 juillet de 14 à 14h au Parc Mendès France à Nevers et le mercredi 16 juillet à l'entrée des prés de Coulanges. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.